Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre état d'esprit. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant pour réveiller votre envie de vivre vos rêves. Car si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ce jour, je vous propose une rencontre avec une personne dont la vie ressemble à un roman d'aventure. Jean-François Lagros est vétérinaire. Il a parcouru le monde entier sur la piste des animaux rares et menacés, a enquêté en Afrique sur l'ivoire, le braconnage et la viande de brousse, et est également photographe et reporter pour de nombreux magazines dans le monde, notamment le Géo. Pour cet épisode, nous avons choisi de vous raconter la piste de l'ivoire. J'espère que vous serez aussi surpris que moi d'apprendre qu'une source, je dis bien une source, d'approvisionnement de l'ivoire se trouve en Sibérie. Bonjour Jean-François.
Bonjour Anne B.
On va parler aujourd'hui d'une toute petite partie de tes pérégrinations, parce qu'elles ont été nombreuses. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la piste de l'ivoire. Ça fait des années que tu t'intéresses à cette thématique. Et on va voir qu'il y a un lien direct entre l'Afrique, la Sibérie et la Chine dans ce parcours. Ça peut ne pas être évident au premier coup d'œil, mais justement, on va expliciter tout ça. Donc, je propose qu'on commence notre voyage avec toi par l'Afrique. Et comment ça a débuté pour toi là-bas ?
D'accord. Bah écoute, l'aventure de l'ivoire, elle a commencé avec un épisode qui était assez dramatique en fait, qui m'a convaincu de me lancer sur la piste des trafiquants d'ivoire et de comprendre un petit peu comment marchait le commerce de l'ivoire en Afrique. J'ai été amené à suivre des braconniers qui chassaient l'ivoire et donc qui, pour récupérer l'ivoire, chassaient les éléphants de forêt. Je suis parti une fois, ça devait être en 2003 ou 2004, avec les braconniers sur la piste d'éléphants de forêt dans le sud-est du Cameroun. Ça a été pour moi vraiment un épisode vraiment marquant de ma vie et ça m'a vraiment décidé à me lancer à la poursuite des trafiquants d'ivoire et à essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de cette protection-là, parce que je pense que c'est vraiment indispensable. Et je vois aujourd'hui, en 2021, que l'éléphant de forêt est maintenant classé comme particulièrement en danger depuis peu, depuis ce printemps.
Ah mince.
Et donc ça rend encore plus important cette lutte contre le trafic d'ivoire. Comme je te le disais, je me suis retrouvé sur le chemin de chasseurs d'éléphants et on est parti dans une réserve qui s'appelle l'Obeke. J'avais été introduit par un chasseur de perroquets qui m'avait mis en contact avec des braconniers qui avaient accepté que je les suive. Et moi, je voulais absolument savoir comment ça se passait. Parce que je pense que c'est important d'être sur le terrain, de savoir comment les choses se passent pour ensuite mieux appréhender la façon de lutter contre tout ça. Écoute, j'ai été une chasse à l'éléphant, je m'en suis porté témoin, même si ça a été extrêmement dur, parce que j'ai vu qu'on chassait l'éléphant de façon vraiment cruelle, c'est-à-dire que comme les moyens sont très rudimentaires, on a souvent un fusil, on a très peu de balles, et si on loupe son coup, on blesse un animal, et on est ensuite obligé de le pister alors qu'il est blessé, et ensuite on est obligé de l'achever. Donc ça a été vraiment un spectacle vraiment terrible, et j'ai pensé que vraiment il fallait que je me lance dans cette voie-là et essayer de lutter contre ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai des ONG, notamment en premier lieu le WWF et sa branche trafic m'ont proposé de travailler sur le commerce de l'ivoire. Je dis le commerce et pas le trafic parce qu'il y a une nuance, c'est que à cette époque-là, et d'ailleurs c'est encore vrai, le commerce à l'intérieur d'un pays, en Afrique, est autorisé, le commerce de l'ivoire. Ce qui est condamné, c'est le commerce international. Mais il est du ressort de chaque pays de décider si, à l'intérieur de son pays, il autorise ou pas le commerce de l'ivoire. Donc, dans les pays où c'était autorisé, j'ai été amené à me balader dans toute l'Afrique centrale. Donc, je faisais des missions pour le WWF, donc pour trafic, en RDC, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Centrafrique, pour aller sur les marchés, rencontrer les vendeurs d'ivoire, connaître les prix, essayer de savoir d'où venait la matière première, où ensuite partaient les objets travaillés, ou bien l'ivoire brut, enfin essayer de savoir le maximum de choses sur ce trafic de l'ivoire. Je me faisais passer pour un acheteur et je faisais des rapports en passant d'un pays à l'autre en essayant de découvrir un petit peu les filières, les origines, les destinations, les gens impliqués, essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Ça a duré pas mal de temps. J'ai fait ça entre 2007 et 2013-2014, jusqu'à ce que je sois pas démasqué, mais plus efficace, parce que les gens finissaient par me connaître et que il fallait que je sois exfiltré, parce que ça commençait à pouvoir devenir dangereux parfois. Voilà.
Et ça t'amenait à travers quel pays tout ça ?
Je faisais toutes les grandes capitales et même les villes secondaires de Centrafrique. Donc du Congo Brazza, du Congo Kinshasa, du Cameroun et puis du Gabon. Voilà, c'était mes principales destinations. Toute l'Afrique centrale en fait. Mais bon, j'ai été aussi en Afrique de l'Ouest. Je le faisais aussi en Côte d'Ivoire, Sénégal un petit peu. Voilà. Donc j'étais undercover investigator. Voilà.
D'accord. Et tu as travaillé aussi avec l'AGAS, c'est ça ?
Et ensuite, alors l'AGAS, c'est une autre histoire, c'est que au bout d'un certain temps, je faisais des rapports et je trouvais que ça n'avait pas les répercussions sur le terrain que j'attendais. Hein. Donc, il est vrai que les grosses machines, les grosses ONG comme Trafic et comme le WWF font des états des lieux et que c'est souvent des plus petites mais n'ont pas d'aspect répressif. C'est pas dans leur politique, c'est pas ce qu'ils aiment faire, c'est pas ce pourquoi ils estiment qu'ils doivent travailler. Et cet aspect-là est fait en général pour de plus petites ONG. Et moi, j'ai été amené à travailler avec l'AGA, avec Ophir Drori. Et avec lui, en étant d'accord avec le WWF, on pouvait utiliser les résultats de ce que je trouvais sur le terrain pour faire des opérations répressives et essayer justement d'avoir une influence sur le terrain pour essayer de limiter au maximum le trafic d'ivoire.
Tu as une idée encore des chiffres de ce que peut représenter par an le trafic d'ivoire en nombre d'animaux décimés pour ça ou en tonnes ?
On estime qu'il y a environ, c'est énorme, hein, on estime qu'il y a environ, ça a dû peut-être un peu baisser, mais aussi faute d'effectifs, parce que maintenant on atteint vraiment des seuils qui sont vraiment inquiétants pour l'éléphant, à la fois l'éléphant de savane, mais surtout l'éléphant de forêt, qui est le plus menacé. Et on estimait il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait environ 30 000 éléphants qui étaient abattus chaque année en Afrique. Pour un total, sur les derniers recensements, qui était entre 400 et 450 000 éléphants.
Ah ouais, oh là là là.
C'est dramatique.
Ouais. Et tout ça, ça part, c'est beaucoup...
Alors, principalement, les principaux marchés de l'ivoire, c'était évidemment la Chine, et puis aussi certains pays du sud-est asiatique, comme la Thaïlande, le Cambodge, tous ces pays-là qui travaillaient encore l'ivoire. Mais depuis, il y a eu quand même pas mal de travail qui a été fait. La Chine a fermé ses marchés domestiques de l'ivoire, ce qui a été quand même un gros acquis, après des années de pression pour en arriver là. Et donc, maintenant, on a quand même une forte diminution des chiffres, hein, bien que le trafic continue, mais à un degré bien moindre quand même. Mais les dégâts sont là, et c'est vrai que maintenant, l'éléphant de forêt est vraiment, vraiment, vraiment menacé.
L'éléphant de forêt, pourquoi est-ce qu'il est plus menacé que son cousin des savanes ? Ses défenses sont plus importantes ?
Non, ses défenses ne sont pas plus importantes, tout simplement parce que pour les braconniers, il est beaucoup plus facile de se cacher en forêt qu'en savane. Pour lutter contre le braconnage en forêt, c'est extrêmement compliqué. La forêt est dense. Quand tu marches, tu peux avoir un éléphant à 5 mètres de toi et tu ne le vois pas. Il est sous le couvert forestier, il se tient immobile. Donc c'est la même chose pour les braconniers. Tu peux leur courir après pendant des jours et des jours, jouer au chat et à la souris. Et c'est très difficile d'arriver à les coincer parce qu'ils connaissent le terrain, qu'il faut d'énormes moyens et que ce sont en général des pays qui n'ont pas les moyens nécessaires pour cette lutte-là. Alors que si tu... Alors que l'éléphant de savane, qui est plutôt en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ce sont des milieux ouverts. Tu peux plus facilement repérer les braconniers, que ce soit par avion ou au sol. Et en général, ce sont des pays à forte vocation touristique qui ont beaucoup plus de moyens pour à mettre en œuvre pour lutter contre ce braconnage. Donc, les braconniers se sont principalement reportés sur l'éléphant de forêt parce que c'était moins dangereux pour eux. Voilà.
Et la Chine, pourquoi cet intérêt pour l'ivoire?
La Chine, c'est un intérêt culturel avant tout, hein. Ça fait des milliers d'années que les Chinois travaillent l'ivoire et que c'est un marqueur social de posséder des objets taillés dans l'ivoire. C'est un marqueur de luxe, de richesse. Et donc, ça a toujours été extrêmement recherché. Il y a énormément d'artisans avec des sculpteurs réputés. Il y a toutes des filières. C'est un véritable aspect de la culture asiatique et surtout chinoise, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à arrêter, et ça a demandé des décennies pour convaincre les Chinois de mettre fin à ce commerce et à ce marqueur social, j'ai envie de dire.
Et maintenant, c'est tout à fait
Non, c'est
fini
pas tout à
alors,
fait
ça.
fini, ça continue, il y a toujours un marché noir, il y a toujours mais c'est de moins en moins d'abord à la mode avec la pression des ONG internationales et même des gouvernements qui s'y sont mis. Et puis sur le terrain, il y a eu beaucoup de célébrités chinoises qui ont accepté de faire des spots publicitaires pour convaincre les gens que c'était qu'en ayant des objets en ivoire chez eux, ils participaient quelque part à la disparition de l'éléphant. Et donc, ça a eu beaucoup d'impact. Et on arrive maintenant à faire que cette valeur des objets en ivoire diminue pour la population.
Tu peux nous expliquer comment le fait de t'intéresser au trafic de l'ivoire t'a amené en Sibérie, où ça n'a pas vraiment d'éléphants de forêt africains? C'est un
Oui,
grand
ça fait
écart
un
quand
grand
même.
écart, mais il y a une suite tout à fait logique, c'est que, alors, ce qui s'est passé à un moment, c'est que comme il devenait de plus en plus difficile de s'approvisionner en ivoire d'éléphant et que c'était de plus en plus compliqué et légalement de plus en plus difficile à accepter. Et parce que ça s'est toujours fait, les sculpteurs chinois, à Hong Kong notamment, se sont mis à utiliser de l'ivoire de mammouth. Parce qu'il se trouve qu'en
Oui, et
Sibérie,
ça, on pourrait croire qu'au contraire, c'est encore plus compliqué à trouver, mais non, j'ai été très, très étonnée quand tu m'en
oui,
as parlé la première
c'est
fois,
assez
oui.
étonnant, c'est que avec le changement climatique, ça s'est toujours fait, hein, depuis un siècle et demi. En Russie, on sculpte, il y a un véritable savoir-faire de sculpture de l'ivoire de mammouth. Parce que en Sibérie, dans le nord de la Sibérie, les populations locales, les nénès et toutes les populations du cercle arctique ont toujours retrouvé de temps à autre des défenses de mammouth et ont sculpté cet ivoire. Ça s'est toujours fait.
Ouais, moi je croyais qu'il en restait très peu en fait.
Non, non, il en reste énormément. Le sol de Sibérie est plein de squelettes de mammouth, plein de défenses de mammouth, surtout avec le changement climatique et le dégel du permafrost. Tous les restes de mammouth remontent à la surface. Avec le dégel, on finit par y avoir accès. Et il se trouve qu'il y a une véritable course à l'ivoire de mammouth parce que ça s'est vendu extrêmement cher. Et surtout, ça ne met pas en danger quelque animal que ce soit, puisque ce sont de l'ivoire fossile. C'est de l'ivoire fossile. Donc, c'est considéré comme une ressource naturelle. Et avec des licences en Russie, on a le droit de chercher l'ivoire de mammouth.
Et tu me disais qu'en fait, l'extinction des derniers mammouths n'était pas si ancienne.
Non, sur certaines îles du nord de la Sibérie, on a conclu que sur l'île Wrangel, par exemple, qui est pas très loin du détroit de Bering, les derniers mammouths, qui étaient beaucoup plus petits que leurs ancêtres, on pense que les derniers mammouths ont été éteints il y a moins de 5000 ans, ce qui est quand même très proche de nous, quoi. Hein. Vraiment, on aurait presque pu voir nous-mêmes ces mammouths. On n'est pas passé très
Oui,
loin,
c'est
en
fou,
fait.
hein.
Voilà.
Ouais, c'est impressionnant.
Et alors, pour faire le lien exact avec l'éléphant, comme légalement on avait le droit de chasser découvrir l'ivoire de mammouth, les Chinois se sont mis à acheter beaucoup d'ivoire de mammouth en espérant contrebalancer le fait qu'il y avait de moins en moins d'ivoire d'éléphant. Ça a donné lieu à la fois des abus parce qu'on a fait passer l'ivoire d'éléphant pour de l'ivoire de mammouth en disant que cet ivoire était légal. Donc, il faut regarder au microscope. Ça demande beaucoup d'analyse pour faire la différence quand ils sont en petits morceaux. Et donc, quand il y avait une cargaison, les commerçants pouvaient dire « Ah ben non, c'est de l'ivoire de mammouth qui est légal. » Et donc, ça posait réellement un problème. Et deuxièmement, le fait d'utiliser de l'ivoire de mammouth entretenait le désir d'ivoire puisque ça perpétuait la tradition, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait laisser ce commerce de l'ivoire de mammouth légal ou essayer de le restreindre. Et donc, on s'est proposé de faire des études sur cet ivoire de mammouth, de savoir quelle quantité était extraite, quelles étaient les filières et tout. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à cet ivoire de mammouth en Sibérie et que j'ai décidé d'aller faire une étude là-bas, de me rendre sur place, de rencontrer des chasseurs d'ivoire de mammouth et d'essayer de faire un état des lieux de cette filière qui était très méconnue il n'y a pas si longtemps, il y a encore une dizaine d'années.
Et où as-tu été comme ça en Sibérie ?
Ça a été très compliqué parce que arriver à rencontrer des chasseurs d'ivoire de mammouth, ça se passe dans le cercle arctique. Il fallait des contacts à la fois pour rencontrer ces gens-là. Il fallait et il se trouve que j'ai fini par trouver une porte d'entrée avec un Russe qui collectionnait les pièces d'échecs en ivoire de mammouth et qui, par ce biais-là, était en contact avec des vendeurs d'ivoire de mammouth à Yakoutsk, en Sibérie. J'ai rencontré ce gars-là qui m'a donné rendez-vous à Dresde, en Allemagne, un jour où il allait pour une réunion de collectionneurs de pièces d'ivoire d'échecs et qui m'a dit « Écoute, si ça s'intéresse, viens à Moscou cet été et je te mettrai en contact avec, en Sibérie, des gars qui cherchent cet ivoire de mammouth et tu pourras peut-être réussir à partir avec eux. »
Ça fait un vrai personnage de
romance.
Ah oui,
une histoire vraiment incroyable. Et, et c'est comme ça que, sans savoir si j'allais réussir, j'ai pris un billet pour Moscou un été et je me suis retrouvé dans la banlieue de Moscou chez Nikolai Timochuk, qui était ce collectionneur et qui m'a ouvert les portes de ce monde incroyable qui est le monde des chasseurs d'ivoire de mammouth dans le nord de la Sibérie.
Et tu as séjourné combien de temps alors avec eux ? Comment ça s'est passé ?
Eh ben, je me suis retrouvé, lui-même m'a pris un billet d'avion pour partir à Yakoutsk et je me suis retrouvé dans la capitale de la Yakoutie, un jour d'été 2012, c'était en 2012, donc ça commence maintenant à dater. Et j'ai été accueilli là-bas par des scientifiques de l'Académie des sciences de Yakoutsk qui travaillaient sur le mammouth et qui eux-mêmes étaient en contact avec les chasseurs d'ivoire de mammouth. Parce qu'il faut bien savoir qu'en Sibérie, il y a en Russie, d'une manière générale, les archéologues n'ont pas beaucoup de moyens pour faire leurs recherches. Donc souvent, ils sont en contact avec le secteur privé, j'ai envie de dire, avec les chasseurs d'ivoire de mammouth privés qui montent des expéditions pour retrouver cet ivoire. Et qu'il y a des passerelles entre la science et ce commerce privé en Sibérie, puisque les chasseurs d'ivoire aident souvent les académiciens, les scientifiques russes, en leur cédant certaines de leurs découvertes qui sont importantes pour la science, moyennant quoi on les laisse profiter de leurs recherches et on les laisse faire leur commerce comme ils l'entendent. S'ils aident la science, on tolère leur commerce. Voilà, il y a une espèce d'entente tacite entre les scientifiques russes et les chercheurs privés sur le terrain qui ont beaucoup de moyens parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec la vente de cet ivoire. En gros, ils font des recherches scientifiques et des trouvailles que les scientifiques eux-mêmes n'auraient pas les moyens de faire. Donc, il y a une espèce d'entente entre les deux.
D'accord. Quand tu parles de commerce privé, il n'est pas toujours tout à fait légal.
Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a des... c'est une longue histoire, mais il y a des cartels de l'ivoire de mammouth sur les territoires du nord de la Sibérie et des îles qui sont au large de l'océan Arctique et sur lesquels il y a des territoires que se sont partagés des différents commerçants qui creusent le sol avec des licences et parfois sans licence pour retrouver cet ivoire de mammouth. Et donc chaque année, ça se fait en été quand les conditions le permettent, des expéditions sont montées avec de gros moyens dans le nord de la Sibérie avec l'aide des ethnies locales qui peuvent être dans certains coins les Nénès, dans d'autres les Yukagir ou les Yakouts du nord de la Sibérie, et qui savent comment trouver l'ivoire de mammouth le long des rivières, par exemple, quand en été, quand le permafrost dégèle, des pans entiers de falaises de qui étaient autrefois gelées le long des rivières tombent dans les rivières ou s'affalent et apparaissent sur ces tranches gelées des restes des bouts d'ivoire de mammouth qui sortent, ou mais ça peut être aussi des toisons entières de bisons préhistoriques, des crânes de rhinocéros laineux, enfin toute la faune du Pléistocène.
Ah oui.
Qui peut être ainsi retrouvé avec des trésors archéologiques incroyables ou paléontologiques extraordinaires. Voilà.
Et tu as été toi-même sur place
J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, pendant plusieurs étés, de suivre les chasseurs d'ivoire, de partir avec eux dans ces expéditions, au cours desquelles ils récupéraient cet ivoire de mammouth, qui est ensuite acheminé jusqu'à Yakoutsk, et où il est parfois travaillé. Il y a une tradition, ensuite il y a des artisans qui le travaillent, ou bien il est exporté directement à Hong Kong, en passant par Moscou. Voilà. Donc j'ai étudié toutes ces filières, du commerce de l'ivoire de mammouth, de la Sibérie jusqu'à la Chine. Et tout ça en étant parti du fin fond de l'Afrique centrale.
Oui, ça c'est amusant. Oui. Et quand tu es en Sibérie là-bas, donc c'est des campements provisoires ou il y a des petits villages quand même ?
Alors, c'est très compliqué parce que souvent, c'est des expéditions qui sont montées dans la toundra. Il se trouve qu'à cette époque de l'année, la toundra a dégelé du moins en surface. Il y a peut-être 50, 60, 70 centimètres de dégelé. Ce sont des vastes marécages où c'est très spongieux, donc il faut y aller avec des véhicules à chenilles spéciaux qu'ont les Russes. Ils arrivent à circuler dans la taïga avec des espèces de skidou russes rudimentaires qu'ils appellent les bouranes. Et donc, ils font des campements dans la toundra et ils cherchent l'ivoire de mammouth dans des conditions extrêmement dures, puisque à cette époque-là, il y a énormément de moustiques. Ce sont des campements qui sont très provisoires. C'est extrêmement, extrêmement compliqué.
Et la température en été, ça
va? Oui, la température n'est pas vraiment un problème. Il fait environ 10 degrés à peu près. Donc c'est tout à fait supportable, c'est pas une question de température, c'est surtout que la saison est très courte parce que ça va grosso modo aller du 15 juin commencer à monter les expéditions jusqu'au 15 septembre dernier délai, et après le froid commence à tomber et là ça devient, il faut avoir rapatrié les expéditions et les stocks d'ivoire de mammouth très rapidement, sinon on est pris dans les glaces. Et là, ça devient extrêmement compliqué, voire extrêmement dangereux, ce qui m'est arrivé une fois, puisque je suis parti avec des paléontologues russes sur les îles Liakhov, qui sont au large de la Yakoutie, au-delà de la mer de l'Aptef. Et on a failli être déclaré en perdition, puisque on a été pris fin septembre dans les premières tempêtes et on pouvait plus être rapatrié. Ça a été extrêmement compliqué parce que les chasseurs d'ivoire nous ont dit qu'on n'était pas leur priorité, qu'il fallait qu'ils rapatrient extrêmement vite leur trouvaille, leur ivoire de mammouth, et qu'ils nous prendraient ensuite. Et ensuite, ça a été extrêmement compliqué et on a failli passer un hiver arctique sur les îles Liakhov. Dans des conditions particulièrement difficiles. Voilà.
Ah ouais, carrément. Ben, je mettrai une carte sur le site web de Storylifique pour montrer un petit peu.
Oui, ça vaut le coup, ça vaut la peine de montrer où ça se trouve, parce que c'est l'archipel de Nouvelle-Sibérie, les îles Liakhov sont très peu connues, c'est extrêmement rare de pouvoir y aller. Moi, j'ai pu y aller parce que j'étais avec une expédition de paléontologues russes, moldaves, mais il y a une expédition qui est autorisée tous les 10-15 ans là-bas, et j'ai eu la chance de pouvoir y participer en 2015, et c'était vraiment une expédition incroyable dont je me souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr.
Oui, c'est certain. Mais je vois aussi des photos où ils sont en train de tronçonner une défense de mammouth qui était un peu trop grande pour rentrer, je suppose, dans leur véhicule. Mais c'était glacé partout. Tu es retourné aussi. Ils travaillent parfois quand il y a de la neige, ou c'est moi qui ai un mauvais souvenir de cette photo.
La saison, ils la font tirer au maximum, et souvent ça déborde sur les premières neiges, les premières glaces. Donc voilà, c'est un métier extrêmement dangereux. Il y a souvent des accidents parce que traverser la mer de l'Aptef au mois d'octobre, quand il y a les premières tempêtes, tout ça se fait dans des espèces de coques en aluminium qui datent de l'époque soviétique. Et si on est pris dans une tempête, ça c'est terrible et il y a énormément d'accidents, énormément de victimes chaque année. Et c'est vrai qu'il faut attendre des fenêtres de météo qui sont très courtes. Et nous, ça a été notre cas et il a fallu attendre longtemps avant de pouvoir traverser. Les îles ne sont pas très loin au large, mais les tempêtes sont tellement subites et tellement dangereuses que c'est toujours un moment extrêmement tendu, cette traversée-là. Voilà.
D'accord. Wow, ok. Comment c'était de vivre alors avec les chasseurs d'ivoire quand tu as eu la chance de passer du temps avec eux?
Oui, c'est très particulier. La première fois, en fait, quand j'y suis allé que j'ai été introduit par les scientifiques de l'Académie des sciences de Yakoutsk, je me suis retrouvé dans la banlieue de Yakoutsk, dans une petite maison où ils me logeaient. Mm-hmm. Et ils m'ont dit, on t'a mis en relation avec les chasseurs d'ivoire, ils vont bientôt partir parce qu'ils ont une mission à faire, ils viendront te chercher. Et puis, je me suis retrouvé dans cette espèce de grande datcha pendant une semaine tout seul, sans comprendre ce qui arrivait, j'avais plus de nouvelles de personne.
Et qu'est-ce que c'est une datcha? C'est une maison? C'est une cabane?
Une datcha, c'est un terme générique pour. En général, c'est une maison de vacances. C'est une maison secondaire dans laquelle on va le week-end. Les Russes ont souvent des datchas à l'extérieur de Moscou, par exemple, et ils partent et ils vont passer le week-end. C'est leur maison secondaire, quoi.
Et donc, tu te retrouves là?
Et là, je me retrouve dans cette maison-là. Et puis, pendant une semaine, donc. J'avais une petite épicerie à côté dans laquelle j'allais me nourrir. Et puis un matin, je vois arriver un Land Cruiser noir, flambant neuf, vitre teintée, et descendre de là trois Yakouts avec un chauffeur et qui me disent « Bon, allez, on y va, on part ». La musique était à fond, il y avait des bouteilles de vodka partout, la moitié était à moitié vide dans le 4x4. Je prends mon sac, on part, et là, on a roulé 72 heures quasiment sans interruption.
Ouais, ça marche bien la vodka pour carburer dans tous les sens du terme.
Ouais, c'était incroyable. Plein est, nuit et jour, les gars se relayaient au volant. Uh-huh. Et en fait, on avait rendez-vous sur le bord d'une rivière à 3 jours à l'est de Yakoutsk, parce que des chasseurs d'ivoire descendaient du cercle arctique sur cette rivière avec une barcasse chargée d'ivoire de mammouth et on avait rendez-vous pour les retrouver et pour récupérer le chargement.
Mmh. Un déchargement de la saison alors.
Un déchargement de la saison.
Okay.
C'est comme ça qu'on est parti en roulant nuit et jour, en carburant plutôt à la vodka qu'à autre chose. Et on s'arrêtait de temps en temps le soir, au crépuscule. Le 4x4 s'arrêtait, mes gars descendaient, ils sortaient deux fusils de chasse de derrière. Ils attendaient les canards qui passaient au-dessus de la piste. Et on tirait trois canards et on remontait après avoir chargé les canards et on reprenait la route pour faire des provisions.
Ok.
Et j'ai vécu donc dans ce 4x4 pendant 3 jours, dans la taïga, dans la toundra, c'était incroyable. Tout ça pour arriver sur les bords de cette fameuse rivière où nous ont rejoint deux barques chargées jusqu'à ras la gueule de défense d'ivoire de mammouth qu'on a transbordé, alors que eux-mêmes les gars arrivaient depuis 72 heures aussi, ils descendaient du cercle arctique avec des pelisses dans tous les sens, harnachés comme des... comme des ours polaires pour nous rejoindre. Donc ça a été ma première rencontre avec les véritables chasseurs d'ivoire qui venaient du nord.
Ah ouais, ça c'est mémorable, voilà. Ça.
Oui, c'était mémorable, vraiment.
Et là, sur place, alors c'était aussi quelques conserves et un peu de chasse pour manger au quotidien.
Non, là c'était dans la banlieue d'une ville
quand même.
d'une ville sibérienne. Pas très loin du moins, donc en Sibérie on est toujours en pleine nature de toutes les manières, même les villes sont en pleine nature. Mm-hmm. C'est pas les villes qui dominent, hein, c'est la nature qui domine, mais on était à proximité quand même d'une agglomération.
D'accord.
Donc on a récupéré cet ivoire et ensuite on est rentré, voilà.
Okay.
Même chose
en sens inverse,
72 heures quasiment sans arrêt pour rentrer jusqu'à Moscou. Ça a été ma première rencontre avec les chasseurs d'ivoire avant qu'on ne parte réellement en avion du côté de Batagaï, mm-hmm. qui est à quelques heures d'avion au nord de Yakoutsk, mm-hmm. et qui est un énorme cratère qui s'est affaissé avec la fonte du permafrost. et qui a fait une espèce d'immense cratère sur les bords duquel chaque année le permafrost s'affale et sur lesquels les chasseurs d'ivoire trouvent une année de l'ivoire de mammouth, une autre année des restes de rhinocéros laineux, d'autres années des loups arctiques, d'autres années des lions gelés dans la tranche de la falaise.
Des enfin, lions
une espèce de bestiaire du Pléistocène. Qu'ils creusent pour le récupérer et ensuite mettre tout ça en état, parce que les chasseurs d'ivoire sont aussi des paléontologues d'une certaine façon, et ils connaissent très bien la valeur de ce qu'ils trouvent, ils sont capables de juger de la valeur de ce qu'ils vont retrouver, et ça c'est toujours incroyable de les voir au travail.
Et ça part chez des collectionneurs privés tout ça ou...
Ça peut partir chez des collectionneurs privés, ça peut partir, comme je te le disais, comme ils sont de connivence avec les scientifiques russes, ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel, les scientifiques peuvent le racheter, ce qui donne l'occasion de négociations sans fin entre les chasseurs d'ivoire et les scientifiques de l'Académie des sciences. Tout ça dépend de la valeur de ce qu'ils ont retrouvé, tout ça dépend de longues négociations, de politique, enfin tout ça est très compliqué.
Oui. Ah ouais, bah c'est intéressant d'y...
Ouais, c'est comme intéressant parce que il y a vraiment des liens entre les paléontologues russes et les chasseurs d'ivoire qu'on n'imaginerait pas en Europe, qui sont très très particulières, parce que ceux qui détiennent l'argent et pour faire les recherches, ce sont les chasseurs d'ivoire, ce sont pas les paléontologues qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui peuvent de cette façon profiter des recherches qui sont faites par les chasseurs d'ivoire. Voilà.
Et là, tu vas encore retourner, tu m'as dit, pour voir des chasseurs ivoires à l'œuvre de manière très particulière, c'est-à-dire sous la glace.
Ben, c'est-à-dire que moi, je les ai vus travailler tout au long de plusieurs étés. Donc, j'ai vu comment ça se passait à la fois sur les îles Liakhov, donc le long de l'océan Arctique. J'ai vu ça aussi le long des rivières de Sibérie et autour des lacs de Sibérie. Mais il se trouve que là, les sources primaires d'ivoire de mammouth commencent à se tarir. C'est-à-dire qu'il y en a toujours beaucoup sur les îles, mais la densité étant moindre, compte tenu du coût de ces expéditions, il faut qu'il y ait vraiment une énorme densité pour amortir les coûts de recherche de ces campagnes d'expédition. Donc là, il y en a un petit peu moins. Donc les chasseurs d'ivoire ont décidé maintenant de chercher dans l'océan Arctique lui-même, sur le pourtour des îles Liakhov, par 10 mètres de fond, de chercher sous la glace en hiver, parce que sous la glace, en fait, quand l'océan, la mer de l'Aptef est prise en glace, c'est beaucoup plus facile d'amener une logistique sur un sol stable qui est la glace, plutôt que de venir en bateau en été quand on risque d'être pris dans une tempête, que ça bouge, que c'est compliqué d'envoyer des plongeurs. Tandis qu'en hiver, on fait un trou dans la glace, on envoie un plongeur par 10-15 mètres de fond, on a une visibilité de 15-20 mètres qui est assez bonne, et on peut chercher sur le sol de l'océan Arctique ce qui a pu tomber, notamment les défenses d'ivoire qui, quand elles sont pas au contact de l'air, de l'oxygène, ne s'abîment pas et peuvent rester longtemps en bon état sur le sol de l'océan. Donc je voudrais, et je devais y aller cette année d'ailleurs, en expédition, maintenant, au mois de mai, quand il y a encore de la glace, pendant un mois, creuser des trous dans l'océan Arctique, sur le pourtour des îles, pour chercher ce qui est tombé et qu'ils n'ont pas récupéré quand c'était encore sur le pourtour des îles, en fait, dans le permafrost.
D'accord. Avec l'épidémie, tu as... Voilà.
Oui, à cause de l'épidémie, cette expédition a été remise. En tout cas pour moi, puisque eux sont partis là et sont en train de travailler.
Oh là là, ils doivent avoir des sacrées combinaisons quand même de plongée pour...
Oui, puisque pour aller jusque là-bas, il faut partir des dernières agglomérations et traverser en véhicule à chenilles et en bourane par moins 55 des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'autour des îles Liakhov. Donc ça demande des équipements incroyables. Et moi, je devais m'équiper en arrivant là-bas, et il y en avait déjà pour 1 500 € d'équipement d'habits pour pouvoir tenir par ce froid et par le blizzard sur l'océan gelé pendant des jours.
T'avais pas prévu de plonger quand même.
Pendant les recherches. À vrai dire, j'aurais voulu essayer de plonger. Ils avaient une combinaison pour moi, mais j'ai pas l'équipement pour filmer pour l'instant, pour mettre ça en, en valeur.
Ah ouais, voilà. Ouais. Oh, dis donc. J'en ai froid.
Oui, moi aussi, mais je l'ai déjà fait une fois l'hiver par moins 55 et c'est vraiment des conditions incroyables. Mais eux, les Russes sont habitués à ça, les Yakoutes sont habitués à ça. Ils sont beaucoup plus à l'aise en hiver qu'en été.
Ah oui, d'accord.
Et toute la Sibérie vit beaucoup plus en hiver qu'en été parce que en été, tout est marécageux, tout a dégelé, donc c'est très difficile de circuler à la fois sur les pistes, à la fois dans les marécages, traverser la rivière, c'est très compliqué, les camions s'embourbent, tout est difficile. Alors qu'en hiver, tout est gelé et il suffit de marcher à la boussole sur la glace et tout le monde préfère largement travailler en hiver malgré les conditions de température qu'en été. Pour eux, la bonne saison pour travailler, c'est l'hiver, c'est pas l'été.
D'accord. Même dans les villages, même ceux qui vivent dans les villages préfèrent la saison froide.
Oui, parce qu'ils sont équipés pour ça. Ouais. Ils ont l'habitude de l'hiver. Les Yakoutes ont des carcasses de rennes gelées. D'ailleurs, quand on avait été en perdition sur les îles Lyakhov, il y avait énormément de provisions parce qu'il y a des tunnels creusés dans le permafrost, des espèces de grottes dans lesquelles ils entreposent à la fois des poissons congelés, des carcasses de rennes congelées qui peuvent rester là plusieurs années et qui servent de réservoir de nourriture quand on est pris par surprise par l'hiver, par exemple. Donc, il y a toujours des espèces de caches, des gros congélateurs, en fait, qui servent aux... De secours en cas de problème.
Ah oui, il me semble que tu avais dit aussi que quand on va à la pêche là-bas, ce qui est bien, c'est que ton poisson, il est congelé tout de suite. Donc, point de vue fraîcheur, c'est parfait.
Ah ça, c'est sûr que ça pose pas de problème. Mais même en été, hein, nous, quand on était sur les îles Yakhov, à la fin, on n'avait plus de réserve et tout. Donc, on avait amené deux filets et on vivait de notre pêche. Mm-hmm. Puisqu'on était vraiment à la fin en perdition et on installait sur la côte. On rentrait dans l'océan Arctique jusqu'à hauteur du poitrail avec les waders, là, qui sont des espèces de combinaisons. On arrivait à rentrer. Mm-hmm. Et on tendait des filets, qu'on laissait 2-3 heures et on avait toujours 4 ou 5 poissons qui faisaient 2-3 kilos et qui nous permettaient de tenir une journée ou deux. Mm-hmm. Donc c'est très, très poissonneux. Les autres sont très poissonneuses. Les poissons sont excellents et les gars les font fumer quand on les mange pas tout de suite. On les mange un peu plus tard et c'est vraiment excellent.
Ouais, d'accord. Et que on n'est pas oppressé dans la respiration quand il fait des moins 55 degrés comme ça, non ?
Non, parce qu'on a toujours des tissus ou quelque chose devant la bouche ou le nez pour faire caisse de remise en température. Ouais. Donc on n'est pas.
Et tu sais pas rester une heure dehors quand même.
Agressé par le par une. Oui, on est dehors, mais l'air est très sec. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus vivable quand l'air est extrêmement sec pour ça, par ces températures.
Oui, c'est ça. J'ai dit que tant que t'es pas mouillé, ça va, mais si tu plonges sous l'eau,
tant
c'est
pas
mal
mouillé,
parti.
Voilà, et le tout, c'est de pas s'accrocher sur du métal ou quoi, parce qu'on peut plus se décoller, on peut plus... Les mains restent collées, ouais.
Ah là là. Et donc là-bas, compliqué. Tu t'es lié d'amitié, tu as parlé du détroit de Bering... Et de ton rêve d'y aller, c'est ça ?
C'est-à-dire que quand j'étais avec l'expédition des paléontologues russes sur les îles Yakhov, ouais. En gros, cette expédition, les paléontologues ont profité de la logistique des chasseurs d'ivoire pour aller sur place et pour vivre dans leur datcha. Donc, on vivait l'expédition de paléontologues, il y avait quand même, on était une douzaine de personnes, vivaient, étaient hébergées dans la station des chasseurs d'ivoire. Mm-hmm. Et donc, on a vécu avec eux en symbiose pendant un mois et demi, quoi.
Oui.
Et là, les jours où le temps était mauvais, moi, je pouvais discuter avec certains paléontologues et je me suis lié avec un paléontologue russe dont la mère, du temps des soviets, était une spécialiste des morses du détroit de Bering. Mm-hmm. Et là, quand j'en ai discuté, je disais, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gosse, je rêve que d'une chose, c'est d'aller voir les morses du détroit de Bering. J'adorerais pouvoir suivre leur migration et voir un petit peu. Et là, mon ami m'a dit, écoute, Ma mère, qui est maintenant à la retraite, a encore des liens avec deux équipes qui travaillent sur les morses, une dans la Russie européenne et une au détroit de Bering, et elle est toujours en contact. Je vais voir s'il y a moyen de te mettre en relation avec ces gens-là et si éventuellement tu pourrais les rejoindre.
Alors, elles sont pas incroyables les histoires de Jean-François ? Je vous avais prévenu qu'il en avait des aventures à raconter. Perso, j'adore. Mais pour ne pas vous faire un épisode trop long, surtout qu'on est en juin, un des mois les plus costauds de l'année pour tout le monde, j'ai décidé pour une fois de vous proposer l'épisode en deux parties. Et t'as vu le suspense ? Et le format de la deuxième partie sera un peu particulier. Donc la suite dans 15 jours. Cet épisode vous a plu ? Un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet ? Parlez-en autour de vous, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur storylifique.com/podcast sur la page de l'épisode. Vous y trouverez les photos, les vidéos et plein d'autres infos sur l'invité. Le lien direct vers cette page se trouve dans les notes de l'épisode. Le projet résonne en vous ? Vous voulez en savoir plus ? Welcome ! Je vous donne rendez-vous sur storylifique.com/soutien. À bientôt !